C'est un accord très important. De fait, ce sont deux accords, un avec les Émirats unis et l'autre avec le Bahreïn. Je crois que tout d'abord, c'est une importance stratégique et politique, d'ailleurs pour les deux parties. Du point de vue d'Israël, le paradigme jusque maintenant, c'était qu'il n'y a pas une possibilité d'une paix avec les pays arabes, ce qui reste du monde arabe, sans une solution, pas la dernière solution, mais quand même un accord entre les Palestiniens et les Israéliens. Et ça, c'est pour la première fois qu'on voit un changement dans la Ligue arabe, qui avait décidé un plan, c'est-à-dire le plan du roi Abdallah de l'Arabie Saoudite en 2002, justement que les pays arabes sont prêts à la normalisation à condition qu'Israël et l'autorité palestinienne arrivent à un accord. Et ça, c'est un changement vraiment assez extraordinaire, je dirais même historique. C'est ça, du point de vue d'Israël, la chose la plus importante. Encore qu'on oublie qu'il y a eu deux accords très importants, peut-être plus importants que cet accord-là, avec l'Égypte en 1979 et avec la Jordanie en
1994.
Donc, c'est quand même, on peut les comparer, mais du point de vue quand même historique et stratégique, les deux premiers étaient plus importants. Mais on doit aussi voir le contexte régional, parce que dans le contexte régional, c'est une sorte de coalition contre l'hégémonie ou la tentative d'hégémonie régionale de l'Iran.
Si vous permettez, on pourra revenir sur cette question iranienne. Je voulais demander à Jamal Abdullah cette question. Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, a déclaré que les pays arabes doivent envisager de nouvelles approches pour avoir la paix avec Israël. Et le président Trump parle de 5 pays potentiellement qui pourraient normaliser leurs relations avec Tel Aviv. Quels sont ces pays selon vous et qui pourraient suivre l'exemple des Émirats et de Bahreïn?
Bien, ben écoutez, tout d'abord, merci de m'avoir invité, ravi d'être avec vous. Je pense que c'est assez tôt de mettre le doigt sur ces 5 ou 4 pays qui peuvent être en fait, qui peuvent suivre les Émirats arabes unis et le Bahreïn, mais je pense que il y a un autre pays dans la région de Golfe arabo-persique, je parle ici de Oman. Parce qu'Oman, on sait qu'il a des relations assez douces avec Israël depuis des années. Et même le sultan Qaboos, le sultan d'Oman, il a reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en 2018. Donc c'est très probable et possible que l'Oman, ça sera un de ces pays. Depuis quelque temps aussi, on parle d'un autre pays africain, c'est le Soudan. Et on sait en Soudan il y a un changement radical depuis la chute du régime de Omar al-Bashir l'année dernière et l'arrivée au pouvoir d'un conseil qui gouverne le pays actuellement et qui souhaite faire sortir le Soudan de la liste noire, si vous voulez. Donc c'est un autre pays. Il y a quelques discussions de Maroc. Je pense que le Maroc est assez loin.
Le Maroc qui préside le comité Air Force.
Tout à fait. Je pense que le Maroc est loin de signer un accord de paix ou un accord de normalisation avec Israël actuellement pour plusieurs raisons. Surtout, je pense, grâce à ou à cause de la pression de la rue ou la pression sociale au Maroc. Et comme vous avez mentionné, le Maroc préside, ou le roi du Maroc préside le comité de Al-Quds ou de Jérusalem depuis que l'organisation de coopération islamique a été créée en 1968. Donc je pense que le Maroc, ça peut être, mais peut-être un stage plus loin.
Alors Elie, les Palestiniens parlent de coups de poignard dans le dos. Ces accords vont-ils faciliter ou compliquer la résolution du conflit israélo-palestinien?
Je crois qu'au court terme, c'est un problème parce que l'autorité palestinienne d'abord, et surtout le président Abu Mazen, a décidé de lutter à toute force contre cet accord. Il a tenté même d'obtenir de la Ligue arabe une condamnation et il a échoué, ce qui aussi c'est un changement très important, très intéressant. Et donc, il faut peut-être attendre le passage à Moubazen de la scène politique pour voir s'il y a d'autres dirigeants qui décident peut-être de changer de cours du point de vue stratégique dans les relations avec Israël.
D'accord. Et vous, Jamal, quelle est votre lecture de la situation côté palestinien? C'est vrai que Bahreïn a réitéré son soutien à la solution des deux États hier, lors de, disons mardi, lors de la signature de l'accord. Et comment est-ce que les pays de la région doivent s'y prendre pour à la fois normaliser leurs relations avec Israël et soutenir la cause d'un État palestinien viable et indépendant?
Bah écoutez, votre question est très intéressante. Et puis, avant de remettre en fait ma lecture, il est très important de souligner ici que la plupart des gens, ils parlent d'un accord de paix. Or, il n'y aura pas auparavant en fait un cas ou un statut de guerre entre les Émirats arabes unis et le Bahreïn d'une part et Israël d'autre part. Donc moi je dirais plutôt c'est un accord de normalisation de relations entre les deux parties. Ça c'est la première chose très importante. Deuxième chose plus importante aussi, moi peut-être je prends une autre vision si vous voulez pour mon analyse concernant les relations entre les Émirats et Israël et le Bahreïn Israël. Je ne compare pas les deux accords qui étaient auparavant signés entre l'Égypte et la Jordanie avec Israël, avec ces nouvelles initiatives ou accords de nouveaux accords de
normalisation.
Voilà.
Où se trouve la différence selon
vous? Voilà, la différence c'est qu'en fait les Émirats en fait ils cherchent quelque chose de beaucoup plus loin que normaliser les relations. Ça veut dire faire une sorte de coalition avec Israël pour faire une barrière confronter son voisin et l'Iran. Je pense que l'Iran, pour Israël et pour les Émirats arabes unis, ainsi que pour d'autres pays du Golfe, elle présente un ennemi. C'est pas que l'Iran en fait qui présente un ennemi. La Turquie aussi présente un ennemi pour les deux parties. Et le mouvement de l'islam politique, il présente un ennemi. Donc je pense ici, c'est ça le point commun entre Israël et les pays du Golfe. Pour répondre maintenant à votre question concernant comment le Bahreïn et les Émirats ils vont jouer le rôle de soutenir la cause palestinienne et à la fois faire un accord de normalisation avec l'État d'Israël. Je pense qu'ils ont maintenant une nouvelle vision. C'est la nouvelle vision adoptée par ces pays. C'est la vision de l'administration Trump. Ça veut dire le plan de paix proposé le 28 janvier dernier. Donc ces pays, ils ont adopté, en signant cet accord, cette vision. À partir de ça, ils vont aller plus loin pour mettre une sorte de pression sur les autorités palestiniennes afin qu'ils puissent montrer ou faire une sorte de discussion.
Concession.
Voilà, tout à fait, concession, tout à fait.
Et vous, oui, allez-y.
Je voudrais quand même souligner que les Palestiniens ont gagné le fait qu'il n'y a pas d'annexion. Le gouvernement de M. Netanyahu voulait annexer une grande partie de la Cisjordanie. Et à cause de cet accord de normalisation, et c'est une clause que
Tout à fait. Mais la question des deux États aussi, c'est une question cruciale. Comment est-ce qu'elle est perçue en Israël en ce moment, dans le contexte de ces accords?
Mais il y a toujours les deux camps en Israël. Le camp qui soutient qu'il faut absolument avoir deux États. Justement pour qu'il n'y ait pas une situation, si vous voulez, comme en Syrie. On ne peut pas avoir un pays démocratique et stable tant qu'il y a l'occupation ou la résistance d'une partie de la population palestinienne. Donc je crois qu'il faut quand même souligner, comme je dis, le fait qu'il n'y a pas d'élection à ce stade. Et je crois que les pays du Golfe auront la possibilité de faire pression sur Israël en cas de nécessité sur ce point. Et ça, c'est, je crois, pour les Palestiniens, c'est très important, même si à ce moment, ils font des manifestations très anti contre les pays du Golfe. Et je crois que la population, si on voit les manifestations dans la rue, les dernières deux journées, cela inclut la dernière nuit, pendant la signature des accords, il n'y a pas vraiment un mouvement populaire qui soutient le président Abou Mazen dans sa tentative de refuser complètement un accord avec le pays du Golfe.
Jamal, l'Arabie Saoudite dans tout cela, peut-être beaucoup disent qu'une reconnaissance ou en tout cas un rétablissement de relations diplomatiques n'est pas imminent, mais on cite quand même l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'après tout, il n'y a pas un sentiment d'abandon de la part des Palestiniens si on combine tout cela?
Écoutez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays central dans la région du Moyen-Orient, si vous voulez, et notamment dans le monde musulman. C'est à partir que les lieux saints, la Mecque et la Médine, se trouvent en Arabie Saoudite. Donc, c'est un pays très important pour tous les musulmans et les Arabes. Alors, moi, je dirais que l'Arabie Saoudite, pour le moment, je ne pense pas qu'il va aller beaucoup plus loin et en signant un accord de normalisation avec Israël pour plusieurs raisons, et notamment que le roi Salman, le roi actuel de l'Arabie Saoudite, qui est assez âgé, il a 84 ans, et c'est lui-même en fait qui est aussi le président depuis plus d'un demi-siècle, 50 ans, toutes les comités relatifs à Jérusalem et à la mosquée d'Al-Aqsa en Arabie Saoudite. Depuis qu'il était le gouverneur de la capitale, à Riyad, avant qu'il soit prince héritier et après par la suite un roi, c'est lui qui prend en charge la question palestinienne en Arabie Saoudite. Donc c'est possible que s'il y a un changement en Arabie Saoudite au niveau de pouvoir, ça veut dire si MBS, Mohammed bin Salman, le prince héritier, arrive au pouvoir dans quelque temps, c'est possible que l'équilibre ici change, ou la décision change. Mais en même temps, je pense que l'Arabie Saoudite, avant qu'il prenne cette décision, si vous voulez, on signe un accord avec Israël, il va compter jusqu'à 100, même plus, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays très important pour tous les pays musulmans, et notamment les 57 pays qui sont membres à l'Organisation de coopération islamique.
Oui, mais en 2020, est-ce que la non-reconnaissance d'Israël est défendable aujourd'hui? Quelle doit être l'approche diplomatique pour des organisations comme la Ligue arabe ou l'OCI pour que la paix s'installe et qu'il y ait un État palestinien viable, comme je le disais?
Bah, écoutez, moi je dirais quelques organisations régionales et sous-régionales, si vous voulez. Ça veut dire, je vais nommer ici trois organisations régionales et sous-régionales. On commence par les petits, ça veut dire le sous-régional comme le CTG ou le Conseil de coopération de Golfe. Deuxième, c'est régional, c'est comme la Ligue des États arabes. Et la troisième, c'est beaucoup plus régional ou même international, c'est l'Organisation de coopération islamique. En fait, les trois, selon mon analyse, ils sont en panne actuellement. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à faire une déclaration pour saluer ou pour condamner cet accord. On n'a pas entendu ni le secrétaire général du CCG, de OIC et de la Ligue des États arabes avec une déclaration pour appuyer cet accord ou pour condamner cet accord. Donc moi je pense en tant que chercheur, si vous voulez, en tant que professeur académique, donc je pense que c'est très important de revenir au droit international et revenir aux résolutions des Nations Unies. On a de dizaines, voire des centaines de résolutions des Nations Unies qui sont liées à cette question du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, si vous voulez. Donc la plus importante, la résolution 181, 338, etc. Donc je pense que revenir au droit international, c'est très important pour résoudre cette question.
D'accord. Alors, nous avons des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Alphonse Mbouaké à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il écrit « D'autres pays arabes vont suivre, cela donnera la paix à Israël et l'Iran se retrouvera isolé probablement. » Crespin Mutumba, toujours à Kinshasa, il dit « J'aime ce geste car la bonne guerre, c'est faire et cultiver la paix avec tout le monde, surtout quand on est voisin. » Et puis Yankuba Damfa au Sénégal, il dit « Les États-Unis sont les protecteurs d'Israël, donc ils ne peuvent pas soumettre une solution qui va satisfaire les deux parties. Tant que ce sera le cas, tout compromis serait de l'utopie. » Donc, quelques réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèles. À Washington, le forum revient après une courte pause. retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Israël a intensifié ses efforts diplomatiques en Afrique ces dernières années. Les relations diplomatiques avec le Tchad ont été rétablies en 2019 et lors de la récente visite d'une délégation tchadienne à Tel Aviv, les deux parties ont discuté de la possibilité d'ouvrir des missions diplomatiques. Comment les Tchadiens voient les relations Tchad-Israël? André Kodmajingar a posé la question à quelques habitants de N'Djamena.
Le réchauffement des liens diplomatiques entre le Tchad et Israël, en tant que citoyen tchadien, je salue cela. Parce que Israël est un pays qui a beaucoup de compétences dans le domaine militaire et dans le domaine de coopération. Et surtout quand on veut faire la paix, on veut assurer la stabilité par rapport aux menaces militaires ou bien aux menaces de terrorisme. L'information est très capitale dans le domaine de la sécurité. Et dans ce domaine, je sais que Israël est très bien qualifié.
Déjà sur le plan économique, j'ai un doute fort. Parce que vous savez, en 2017, le Tchad c'était 29 milliards de dollars du PIB contre 317 milliards de dollars de PIB pour Israël, pour l'État hébreu. Donc vous voyez déjà qu'on n'a rien, n'est-ce pas, à chercher là-bas. D'autant plus que le Tchad n'a rien à proposer à qui que ce soit, moins c'est encore à Israël. Donc sur le plan économique, c'est quand même un problème. Bon, on met l'agriculture devant, mais l'agriculture, je pense, c'est juste la forêt qui cache, vous mettez l'arbre qui cache la forêt.
C'est vrai que le Tchad est sur le front en train de combattre le terrorisme. Et cet accord vient donc booster ses efforts. Sur le plan économique également, le Tchad est en train d'amorcer son développement et il a besoin des différents accords, des différents appuis venant des pays amis pour ainsi donc l'aider à se développer.
Nous créons en tant que défenseurs des droits de l'homme que ce rapprochement dans le domaine de la sécurité puisse, n'est-ce pas, aider le gouvernement tchadien à restreindre la liberté d'opinion, la liberté d'expression des Tchadiens qui tous les jours, n'est-ce pas, dénoncent cette mauvaise gouvernance dans laquelle nous nous trouvons depuis bientôt 30 ans. Nous sommes plutôt inquiets parce que l'Israël, dans le domaine de la sécurité, dernièrement, on a vu l'affaire relative, n'est-ce pas, à la surveillance des opposants dans certains pays africains avec des matériels technologiques qui ont été mis à la disposition des États africains par l'Israël. Et nous créons effectivement que le Tchad puisse effectivement s'en procurer de ces matériels pour suivre les opposants, les traquer et continuer ainsi à mettre à genoux notre jeune démocratie.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Tel Aviv, Eli Carmon, analyste politique et chercheur. À Montréal, Jamal Abdullah, professeur à l'Université de Montréal. Alors, Eli, Israël développe ses relations avec les pays africains, hein, des pays comme le Rwanda, même le Sénégal et le Tchad, deux pays à majorité musulmane. Quelle est la stratégie pour Israël?
Il faut rappeler que l'Afrique a été un champ de diplomatique très important d'Israël à partir de son indépendance et l'indépendance des pays africains. Israël était très actif dans les années 60 et 70. Et puis, à cause de la crise du pétrole, on a coupé les relations diplomatiques du côté africain. Depuis plusieurs années, les deux derniers ministres des Affaires étrangères...
Le conflit israélo-palestinien, il était pour beaucoup, en fait, pour certains pays, en tout cas.
Non, la majorité des pays, c'était la crise économique, la pression dans les années 72-74, et ensuite, cruellement, parce qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques, une partie des pays s'est rangée du côté des pays arabes, et surtout... il y avait des pays à majorité musulmane et cela, c'était plus facile de faire une propagande, disons, anti-israélienne. Mais justement, beaucoup d'Africains n'ont pas oublié cette coopération avec Israël. Et pendant les dernières 7-8 années, il y a une nouvelle stratégie d'Israël de revenir en Afrique, surtout pour des raisons politiques mais aussi économiques. Et on a vu que même des pays comme, musulmans comme le Tchad sont en relation, maintenant on parle même du Soudan. Et je crois que cette stratégie a réussi finalement. On a vu les visites du Premier ministre Benjamin Netanyahu en Afrique de l'Est avec des rencontres à haut niveau avec plusieurs présidents africains. Et je crois que justement ce qui se passe dans le Golfe influera sur des pays comme pas seulement le Soudan, je ne sais pas maintenant, comme le Mali, peut-être le Niger, pour avoir des relations directes avec Israël. Le Tchad, c'est un cas très important parce que le Tchad est aussi un des pays les plus actifs dans la lutte contre l'extrémisme djihadiste, surtout le Boko Haram et des groupes de Al-Qaïda du Maghreb dans le Sahel.
D'accord. Alors, Jamal, le bloc africain est très important au sein de l'Organisation de la coopération islamique et c'est un bloc qui a des relations économiques et confessionnelles très fortes avec l'Arabie saoudite notamment et d'autres pays du Golfe. Comment ces développements qu'on a vus cette semaine à Washington peuvent influer sur les décisions de ces pays africains de renforcer également leurs liens avec Israël? Si c'est le cas, est-ce que cela se fait au détriment de la cause palestinienne?
Bien, écoutez, comme j'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, en fait, ces pays africains qui font partie de l'Organisation de coopération islamique, ils sont en lien très fort, notamment avec l'Arabie saoudite. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, c'est le pays hôte de de siège social de cette organisation de coopération islamique. Donc, en fait, je pense que l'Arabie saoudite ici il peut jouer un rôle très important, si vous voulez. Si l'Arabie saoudite décide d'appuyer dans le sens que les Émirats unis et le Bahreïn ont pris, donc l'Arabie saoudite peut en fait mettre la pression sur certains pays africains pour faire une sorte de coopération avec Israël dans l'avenir. Mais si ils ne souhaitent pas, ils peuvent faire une pression pour arrêter toutes sortes de rapprochements entre ces pays et Israël. Et je donne un exemple très simple, et c'est quelque chose qui était passé, et je m'arrête ici si vous voulez, afin que vous puissiez continuer à poser vos questions. On se rappelle en fait en 2017, ça veut dire il y a presque 3 ans, le 5 juin 2017, 3 pays de Golfe, dont l'Arabie saoudite et les Émirats unis et le Bahreïn, ont coupé leur lien avec leur voisin, le Qatar, le petit pays de Golfe, le Qatar. Alors, on a bien constaté qu'à l'époque, Adel Al-Zubayr, le ministre des Affaires étrangères saoudien, il a fait une sorte de voyage, si vous voulez, visite dans certains pays d'Afrique, et il a mis une sorte de pression sur ces pays pour appuyer l'Arabie saoudite et ses alliés et couper les liens avec le Qatar. Et même dans quelques journaux, on a lu que l'Arabie saoudite a utilisé la carte de le pèlerinage et les visas de pèlerinage pour tirer ces pays. Donc je pense que l'Arabie saoudite elle peut vraiment jouer une carte très importante au niveau de la religion et même au niveau des investissements économiques.
D'accord. En tout cas, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis. Je remercie les télépartenaires sur le compte. Sinon, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.